Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écoutée. Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse F1, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'il ne fallait vraiment, mais vraiment pas manquer en Espagne cette saison. Et oui, parce que si jamais vous avez loupé ce formidable Grand Prix, eh bien, mon enthousiasme le fait paraître, il faut vraiment le rattraper ce Grand Prix. Vous avez vraiment loupé beaucoup de choses très belles et très intéressantes et vous allez voir pourquoi. Mais avant de voir pourquoi, oui, je devais vous rappeler une news. Et oui, une news que je ne vous avais pas dite la semaine dernière. La semaine dernière, je vous parlais de l'actuelle carrière des pilotes Manor de la saison dernière. Et en oubliant Alexander Rossi qui est en IndyCar, mais je vous l'avais déjà dit, il me semble. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Pirelli. Vous vous souvenez, j'avais parlé lors d'un podcast il y a quelques temps, lors d'une chronique. Je vous avais parlé des tests Pirelli. Pirelli qui attendait vraiment d'avoir des dates précises pour pouvoir tester ses pneus pour 2017, pour faire du bon travail, et qui avait mis la pression sur la FIA en disant ben, soit on a les tests à telle date, soit on vous fournit pas en pneus entre 2017 et 2020. C'était, je crois, même une condition sine qua non du contrat passé entre la FIA et Pirelli. En tout cas, Pirelli était assez clair et c'est bien qu'ils soient un peu comme ça, un peu ferme. Et donc, ils ont obtenu leur test. Et là, ça a déjà commencé il y a quand même quelques semaines avec, je crois, Pastor Maldonado tout d'abord qui a fait des tests, je ne me trompe pas. Et en tout cas, Jean-Éric Vergne, ça c'est sûr, a été pilote essayeur pour Pirelli. Bref, revenons sur ce Grand Prix, et oui, je vais vous en parler. Ben, tout d'abord, ce qu'il ne fallait pas manquer, c'est la victoire, la surprenante et brillante victoire de Max Verstappen. Et oui, Max Verstappen, le petit jeune, a gagné ce Grand Prix pour son premier Grand Prix chez Red Bull. Alors vous allez me dire pourquoi. Eh bien tout d'abord, les Mercedes étant au tapis, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien ça a été une bataille entre Red Bull et Ferrari. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, plus en détail, de cet aspect bataille entre ces deux écuries. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ricciardo, il a chaussé les pneus tendres pour son deuxième arrêt au stand. Vettel l'a imité, vu que Ricciardo était premier, Vettel deuxième, Vettel s'aligne, logiquement, on va dire, sur Ricciardo. Et au tour suivant, d'ailleurs. Et mais seulement, ils ont peut-être oublié Verstappen et Raikkonen qui étaient encore dans la course et qui donc ont choisi une autre stratégie, ont chaussé les médiums. Et ça a eu pour conséquence tout simplement que Verstappen et Raikkonen se retrouvent en tête, comme Vettel et comme Ricciardo et Vettel ont dû faire un arrêt de plus, si ma mémoire est bonne. Et du coup, ben, ça s'est joué entre les deux. Et de bout en bout, Verstappen n'a pas lâché la tête de la course. Hein. La stratégie était finalement payante du côté des deux pilotes, Verstappen et Raikkonen. Mais la victoire de Verstappen s'est construite au fur et à mesure du Grand Prix. Pas que sur la stratégie, mais vraiment sur ses habiletés, sur ses qualités personnelles, il faut le dire. Il a fait un Grand Prix excellent, une course excellente de bout en bout. Bah, tout d'abord, dans le premier relais, où il était quand même retrouvé en sandwich entre Ricciardo et Vettel. Ricciardo premier, Vettel troisième. Et donc, il s'agissait de ne pas se laisser lâcher par Ricciardo pour pouvoir peut-être viser la victoire et un doublé Red Bull. Et ne pas se faire rattraper par Vettel, qui aurait pu le doubler, quoi, et qui aurait pu menacer une victoire Red Bull. Et donc c'était très délicat, d'autant plus qu'il y a l'aspect gestion des pneus dans ce cas-là. Donc là, quand t'es deuxième comme ça dans cette position, c'est la position la plus stressante et la plus difficile, je pense, pour un pilote. Avec ses F1, avec ses pneus, c'est très compliqué, mais Verstappen a très bien géré. Il était dans le rythme de Ricciardo, vraiment. Des fois, il le reprenait quelques dixièmes. Il restait entre une seconde et demie derrière Ricciardo. Et pareil, Vettel restait entre une seconde et demie derrière. Des fois, il se rapprochait à moins d'une seconde, il me semble. Mais il n'a jamais été vraiment menaçant pour Verstappen. Et ça, c'est fort, hein, que Verstappen ait pu faire ça en deuxième position. Mais voilà, c'est vraiment surtout, déjà dans ce premier relais, mais dans le dernier relais, Verstappen a été vraiment, vraiment énorme parce que il a tenu pendant près de 25 tours à Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen qui était derrière lui dans la seconde, hein, dans la zone DRS quasi tout du long. Et Verstappen l'a tenu en respect, quoi, l'a tenu derrière. Raikkonen n'a jamais pu vraiment tenter de dépassement sur le pilote néerlandais, et ce qui montre bien à quel point ce dernier s'est montré vraiment lourd de sang-froid, de rythme également, et d'intelligence de course. Il a eu tout ça, et c'est pour ça qu'il a gagné la course. Et on aimerait voir Verstappen comme ça tout le temps. S'il est comme ça tout le temps, forcément, ça va être un gros client à l'avenir. Mais on le sait, hein, depuis qu'il a commencé la F1, que ce soit l'année dernière ou cette saison, et il n'est pas comme ça tout le temps, et ça lui arrive de craquer, hein, comme à Melbourne par exemple, en deuxième partie de course. Donc voilà, à lui de garder la tête froide et de continuer comme ça, et là, on le verra avoir de grandes choses. Pour détailler un peu la gestion très intelligente de Verstappen, comment il a pu tenir Raikkonen, un champion du monde de F1, derrière lui pendant près de 25 tours. 25 tours, hein. C'était 25 tours superbes à suivre, hein, parce qu'on ne savait pas si Verstappen allait lâcher, si Raikkonen allait revenir, il y avait les pneus, on ne savait pas si ça allait lâcher pour les deux en même temps, pour l'un, pour l'autre, si Vettel et Ricciardo pouvaient revenir. C'était vraiment lourd de suspense et tout. Il y avait cet aspect Verstappen en tête, il a 18 ans, il va pas tenir, et ben si. Ah, c'était vraiment fort. Alors comment il a tenu d'ailleurs? Ben, tout simplement, il n'a pas vraiment forcé dans les deux premiers secteurs, enfin, juste ce qu'il faut pour pour ne pas être à portée de tentative de dépassement de Raikkonen. Et il a fait de même ensuite, mais de façon plus importante, parce que il y a une longue ligne droite, quand même, la ligne droite de départ-arrivée, avec un moteur Ferrari contre un moteur Renault. Si Raikkonen est assez proche, il peut vraiment revenir et dépasser Verstappen facilement. Seulement Verstappen, eh bien, dans son analyse d'après-course, il a dit dans les deux premiers secteurs, bon, j'ai juste donné ce qu'il faut. Par contre, dans le troisième secteur, j'ai utilisé mon capital pneu et les qualités de ma Red Bull, parce qu'on sait que la Red Bull est très forte concernant l'appui aérodynamique, et forcément le troisième secteur en demande plus, notamment avec cette chicane. Donc ce qu'il faisait, il faisait en sorte de très bien sortir de la chicane pour que la Ferrari qui était derrière, qui avait l'air sale, comme on dit, quand on se retrouve derrière une monoplace, avec tous ces appendices aérodynamiques, forcément, l'air sale, ça influe sur la motricité de la voiture et sur l'adhérent, enfin sur l'aérodynamisme. Et du coup, la voiture est un peu déstabilisée, on va dire, de Raikkonen. Et en plus, la Ferrari n'est pas forcément aussi forte que la Red Bull dans l'aspect appui aérodynamique. C'est pas forcément vrai. Du coup, eh bien Verstappen, il sortait bien de la chicane pendant près de 25 tours. Et du coup, à chaque fois, il se retrouvait, c'est vrai, assez devant pour que Raikkonen avec le DRS ne puisse pas revenir suffisamment. Et c'est beau, hein, de faire ça. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais ça semble simple sur le papier, quoi. En effet, sur le papier, c'est logique, c'est ce qu'il faut faire. C'est connu depuis, je pense, depuis que le circuit existe, que justement enfin, depuis que le circuit existe, avant, il n'y avait pas cette chicane, il y avait deux virages à droite très rapides, mais pareil, il fallait rester assez proche de la monoplace à la sortie du dernier virage, et c'était pas forcément évident parce que comme c'était deux virages hyper rapides, il fallait quand même pas se faire déventer dans les deux virages. Donc voilà, mais Raikkonen connaissait très bien la problématique, et c'est ça qui renforce la performance de Verstappen. C'est que Raikkonen, il sait très bien que Verstappen va faire ça. Cette tactique, il a dû l'utiliser 1000 fois en course, Raikkonen lui-même. Donc, bah, c'est dire que voilà, c'est dire la performance de Verstappen pour arriver à faire ça à Raikkonen. Et donc, bah, Max Verstappen devient le plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix de F1 à l'âge de 18 ans. Et oui, c'est très fort. Et premier podium, première victoire, première course avec Red Bull. Red Bull doit faire la fête parce que Red Bull, ils avaient pris une décision très critiquable avant. D'ailleurs, j'y reviendrai dans un prochain podcast. Très critiquable de remplacer remplacer Kvyat par Verstappen comme ça au pied levé. Et l'adaptation dont a fait preuve Verstappen sont sérieux également pour apprendre les procédures également avec le volant et tout, et sa combativité en course, ça force le respect, hein, ça c'est sûr. On peut qu'applaudir, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut qu'applaudir Verstappen après ce Grand Prix. Après, c'est pas fini, hein. Certes, c'est son premier aboutissement, on va dire, en F1, mais je pense que lui, il a envie d'en gagner plus, et donc il devra faire le boulot et rester les pieds sur terre pour en remporter d'autres et pas faire d'erreurs. Parce que cette fois-ci, il est chez Red Bull. Donc s'il fait les mêmes erreurs qu'il faisait chez Toro Rosso et qu'on minimisait, que beaucoup minimisaient, en disant ouais, mais c'est bon, il est talentueux, on s'en fout. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Si avec Red Bull, il fait des erreurs, il fera des erreurs qui seront beaucoup plus visibles et ça pourra vraiment plus lui nuire. Donc à lui de continuer sur sa lancée du Grand Prix d'Espagne, qui est très bonne, pour nous impressionner encore plus. Parlons du grand déçu maintenant de ce Grand Prix d'Espagne, il s'agit de Daniel Ricciardo. Et oui, Daniel Ricciardo qui a fini quatrième, donc pas sur le podium alors qu'il a mené ce Grand Prix pendant un moment. Et évidemment, il n'était pas content après la course, vraiment pas content, et même pendant d'ailleurs, ça se voyait. Parce que, pour lui, la stratégie lui a clairement coûté la victoire et a coûté à l'écurie un double podium. C'est ce qu'il disait après la course, lors des interviews, et même quelques jours après, il n'a pas arrêté de le dire. Donc il est vraiment frustré de cette course, Ricciardo, vraiment déçu, et je ne suis pas d'accord avec lui, vraiment pas, parce que selon moi, les stratégies, à la fois les stratégies de Raikkonen et de Verstappen, et la stratégie de Vettel et de Ricciardo, les deux se valaient, je pense. Les deux se valaient sur le papier. Parce que voilà, dans les 10 derniers tours à peu près, 10-15 derniers tours, Vettel et Ricciardo commençaient à vraiment remonter sur les deux de devant, qui commençaient à avoir leurs pneus vraiment en délicatesse, leurs pneus médiums qui venaient de tenir quand même pas mal. Alors certes, Raikkonen et Verstappen faisaient un superbe travail hein, pour maintenir les pneus, pour rester dans le rythme, pour lutter pour la victoire. Et oui, forcément, quand il y a une perspective de victoire au bout, ça donne des ailes, hein, sans mauvais jeu de mots, mais ça donne vraiment des ailes. Et ils étaient vraiment sur une autre planète, hein, Raikkonen et Verstappen, pendant cette course. Évidemment, surtout Verstappen, puisqu'il a gagné, mais les deux vraiment ont fait un superbe boulot. Mais voilà, n'empêche que ils peuvent pas non plus défier trop les lois de la physique, même s'ils surnageaient. Et Vettel et Ricciardo les rattrapaient, mais voilà, il s'est passé quelque chose. Et oui, vous allez me dire, mais pourquoi ils sont pas remontés alors? Pourquoi tu dis que la stratégie de Vettel et Ricciardo était finalement peut-être une bonne stratégie puisqu'ils ne sont pas remontés? Eh bien, tout simplement parce que Ricciardo a craqué mentalement pendant la course, je le dis comme je le pense. Il a fait un peu comme d'ailleurs comme Verstappen à Melbourne, quand il était frustré en course de la stratégie de l'erreur de Toro Rosso. Dire erreur et Toro Rosso dans la même phrase, ça va ensemble, hein, je devrais même pas préciser, mais bon, c'est comme ça, je suis un peu méchant, mais c'est vrai. Et du coup, Ricciardo, voilà, il a fait un peu comme Verstappen à Melbourne, et ce qui est assez grave de dire ça, c'est vraiment une grosse critique que je lui fais, parce que faire comme un pilote qui a beaucoup moins d'expérience que lui, en se montrant impatient, frustré, d'être quatrième après avoir mené la course, alors certes, tu peux être frustré, mais tu dois le mettre au fond de toi et rester dans la course et au pire t'en servir pour être positif et donner encore plus, mais pas essayer d'en faire trop et de faire n'importe quoi et de montrer sa frustration, parce que là c'était clairement ça, hein, c'était clairement ça. Il a tenté par deux fois de dépasser Vettel, la première fois de façon musclée, la deuxième fois de façon complètement désespérée, qui lui a fait perdre d'ailleurs tout espoir de podium. Et ça a fait perdre à la fois Vettel et Ricciardo 3 grosses secondes. Je suis gentil en disant 3 grosses secondes, je me souviens plus, mais ça c'est sûr qu'il y a 3 grosses secondes qui y sont passées dans l'histoire. Et c'était peut-être les 3 grosses secondes qui auraient pu permettre aux deux de remonter. Hein. Tout simplement parce que dans les tout derniers tours, à la fois Vettel et Ricciardo reprenaient plus d'une seconde au tour aux deux de devant. Et donc je pense que si Ricciardo avait été plus intelligent, il avait fait un peu comme en cyclisme, vous savez, quand il y en a deux qui essayent de remonter sur le premier là, et qu'il se. Ben le deuxième, celui qui est un peu plus lent derrière, il va rester dans la roue du premier, mais il va pas essayer de le doubler. Il va pas essayer de l'attaquer parce que ça sert à rien et ça les cramerait et ils auraient moins de chances de revenir sur le premier. Là c'est pareil, Ricciardo il aurait dû être intelligent, rester derrière Vettel, qui n'était pas dans un rythme mauvais, même si Ricciardo était peut-être plus rapide de manière intrinsèque, mais. Voilà, il serait resté derrière, et après, il remontait tous les deux sur le wagon. Après, il serait remonté peut-être dans les deux derniers tours, je pense. Hein, ça aurait été un peu tard, mais dans les deux derniers tours, qui sait, après, ils auraient peut-être eu leur chance, parce que quand il y a deux pilotes avec des pneus médiums beaucoup moins usés que deux autres pilotes en pneus médiums, qui sont bien usés, forcément, il y a des tentatives de dépassement qui peuvent se passer, même à des secteurs pas soupçonnés, à des virages pas soupçonnés, parce que ils auraient eu une meilleure, bien meilleure motricité que les deux de devant. Et donc, voilà, une plus grande vitesse dans les virages rapides. Donc évidemment, il y aurait eu des tentatives de dépassement qui auraient pu être très rapides, hein. Ça peut être vraiment très rapide dans ces cas-là, quand il y a une grosse différence entre l'usure des pneus de deux pilotes. On l'a déjà vu, mais voilà, malheureusement, pour Vettel et Ricciardo, et surtout Ricciardo, ça ne s'est pas passé, mais ça, Ricciardo ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Alors certes, il peut dire, ouais, l'écurie, ok, mais d'un autre côté, la stratégie de Verstappen et Raikkonen, c'était pas non plus parfait. Hein. Dans les 10 derniers tours, ils étaient sur des œufs, hein, ils l'ont dit, hein, ils étaient vraiment en délicatesse. Hein. Et dans les 5 derniers tours, encore plus, avec en plus Raikkonen, qui a vraiment lâché dans les 2-3 derniers tours, où ses pneus lâchaient encore plus. Donc c'était pas non plus gagné-gagné hein, pour eux. Donc selon moi, il n'y a pas d'erreur de stratégie pour Ricciardo et Vettel. Vraiment pas. Parce que ça aurait pu fonctionner. Mais bon, ça n'a pas fonctionné vu les circonstances. Mais voilà, Ricciardo, il faut. Là, je le vois un peu comme le Ricciardo de la fin de saison dernière, de la deuxième partie de saison dernière. Et il revient un peu vite dans cet état d'esprit. Et un peu trop vite. Alors après, oui, je le comprends dans le sens où il voit son coéquipier. Le jeune de 18 ans qui vient tout juste de rentrer dans la Red Bull qui gagne le Grand Prix. C'est sûr que Ricciardo, il est pas dans la place la plus confortable hein, pour regarder ça. Ça se comprend largement. Mais il doit faire preuve de sang-froid, vraiment, d'expérience. Et voilà, parce que sur la suite de la saison, il a aucune autre alternative que d'être devant Verstappen. Sinon, ça va être dur pour lui. C'est un très bon pilote, Ricciardo, mais attention, hein, un Verstappen qui fait preuve de maturité, c'est pas la même que le Verstappen qu'on a pu connaître. Hein, faut faire gaffe. Hein. Donc, Ricciardo, ils doivent se pousser l'un l'autre et on verra une écurie Red Bull vraiment très puissante. Alors là, vous allez me dire, ouais, tu nous as parlé de Red Bull, de Ferrari, mais Mercedes alors, mais attends, il n'y a pas eu Mercedes pendant la course? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-elles? Eh bien oui, parce que justement c'est l'absence des Mercedes qui a fait qu'on a pu voir cette lutte. On aurait peut-être pu voir une autre lutte hein, entre les Mercedes, mais ça n'a pas été le cas, ou du moins ça a été le cas pendant 3 virages, puisqu'en effet les 2 Mercedes se sont mises au tapis elles-mêmes après le virage 3. Et oui, la fameuse courbe rapide à droite, le magnifique virage là où Rosberg et Hamilton voilà, se sont littéralement envoyés en l'air, et ça fait suite à un mauvais départ d'Hamilton. Encore une fois, je le souligne, nouveau mauvais départ d'Hamilton. Cette saison en 2016, à chaque fois qu'il a été en pole, il a fait un mauvais départ. C'est fou quand même. Là, c'est vraiment grave pour le triple champion du monde. Il faut vraiment revoir ça parce que c'est son gros point faible. Et s'il veut remporter le championnat, il faut pas ça. Ça lui coûte des points et là, ça lui coûte aussi grave, grave cher. Parce que s'il avait maintenu la première place, il n'y aurait peut-être pas eu d'accrochage, on ne sait pas. Peut-être, mais. En tout cas, il aurait pu éviter ça, la situation dans laquelle il s'est trouvé. La situation où Rosberg le passe au premier virage à l'extérieur, de bien belle manière. Ensuite, Hamilton se retrouve plus rapide à l'abord, enfin à la sortie du virage 3. Tente absolument de passer Rosberg parce que Hamilton sait que sur ce Grand Prix, c'est un peu compliqué de passer, surtout si celui de devant a la même monoplace. Donc voilà, il se dit ça, il reste dans cette optique et il tente un dépassement comme ça, très agressif. Mais il y avait une porte, il a vu la place, il y allait. Seulement Rosberg a fermé la porte et ensuite Hamilton s'est retrouvé dans l'herbe et parti en tête à queue dans son coéquipier et les deux se sont retrouvés au tapis. La faute à qui, selon moi, aux deux, aux deux ou à personne, incident de course en tout cas. Mais les deux auraient pu faire autrement. Rosberg tout d'abord. Qui, il faut le dire, était dans le mauvais mode de cartographie moteur, dans le mauvais mode moteur. C'est-à-dire que d'habitude, il y a une petite molette sur le volant qui est réglée sur la droite pour les pilotes Mercedes. Et celle de Rosberg, au début de ce Grand Prix, était réglée sur la gauche. Et oui. Et du coup, ben, il a pu faire un meilleur départ, mais ensuite, il avait moins de puissance, sûrement, à partir d'une certaine vitesse. Il avait moins de puissance que ce qu'il aurait dû, et du coup, c'est pour ça, en partie, qu'Hamilton est revenu très fort sur lui. À la sortie du virage 3, Rosberg, on l'a vu à la vidéo, justement, remet le bon mode moteur, mais c'est déjà trop tard. Et à ce moment-là, Rosberg, il commençait à fermer un petit peu la porte sur la droite, petit à petit, et puis après avoir remis le mode moteur, il continue de fermer sur la droite, mais peut-être que de faire cette manipulation, lui a occasionné une mini perte de concentration de quelques centièmes ou d'un dixième de seconde, et ça a suffi pour que l'irréparable se croise. De l'autre côté, Hamilton, il aurait pu se dire que la course était longue et que certes, même si en effet au Grand Prix d'Espagne on a peu de chances de doubler, c'est compliqué, mais il aurait pu avoir confiance en son rythme de course, se dire que lors du dernier Grand Prix, son rythme de course était meilleur que Rosberg, et que là, s'il est encore meilleur que Rosberg, eh bien, il peut très bien essayer de le passer, même s'ils ont la même monoplace. Et la course est longue, ne dure pas que sur un tour, donc ouais. Hamilton également, peut-être trop agressif, et voilà. Rosberg a fermé la porte, tel que Hamilton lui faisait la saison dernière. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, à part que oui, c'est sûr, c'était un peu culotté. Voilà, les deux auraient pu agir autrement. Ça reste un incident de course, hein. Il n'y a rien à dire. Alors, dans leurs déclarations, les deux, ben, ils sont un peu, on va dire, un peu fatalistes, hein. On sent qu'ils rejettent la faute sur l'autre à chaque fois. Chacun estime d'être dans son droit. Hamilton, il a dit, ben, quand tu vois un gap en F1 et que t'es pilote, si t'y vas pas, t'es pas un pilote de F1, c'est l'esprit Ayrton Senna, on va dire. Exactement ça. Rosberg, lui, il comprend pas qu'Hamilton ait voulu passer là, sûrement. Il était assez énervé de ça. Mais voilà, tous les deux, ils disent ça change rien sur notre relation entre nous deux. Ben, de toute façon, elle était déjà bien entachée. Donc forcément, là, voilà. Bon, mais en tout cas, cette sortie de piste, on a vu Hamilton beaucoup plus en colère tout de suite après la sortie de piste. Et oui, parce que c'est encore lui qui est le grand perdant de la course. C'est encore lui, hein. Je l'avais dit, il doit absolument capitaliser, reprendre de gros points sur Rosberg. Lui aussi le savait, mais finalement, d'être dans cette situation, peut-être que ça a fait qu'il ait tenté ce dépassement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a encore un mauvais départ, hein, de la part d'Hamilton. C'est assez grave à ce niveau-là, hein. C'est là que tout commence, hein. Donc, faut qu'il se pose des questions sur ça. Et qui reviennent fort, parce que là, on va rentrer au Grand Prix de Monaco, je crois 6e Grand Prix de la saison. Environ 45 points de retard sur Rosberg. Ça commence à être compliqué pour Hamilton, très compliqué. En plus, derrière, on a Ferrari, Red Bull qui reviennent. Et ben d'ailleurs, parlons-en de ces deux écuries. Et oui, Red Bull et Ferrari qui luttent ensemble et qui luttent à très haut niveau. C'est l'autre fait inhabituel, en plus de l'absence des Mercedes en haut du tableau d'un Grand Prix. Et en plus, Red Bull qui lutte avec Ferrari sur le circuit de référence de la saison pour les écuries, c'est-à-dire le circuit de Catalunya à Montmello, le Grand Prix d'Espagne. Et oui, le Grand Prix où il y a les essais hivernaux, le circuit où il y a les essais hivernaux. Et c'est très important de voir Red Bull à ce niveau-là. Red Bull qui voit une grosse évolution moteur à venir, le fameux moteur Renault Badger Tag Heuer. Grosse évolution qui va venir très bientôt, soit direct à Monaco, soit au Grand Prix suivant au Canada. Ferrari pousse aussi à tous les niveaux. Donc évidemment, il y a une montée de performance des deux, ça se resserre. Et dans l'idéal, pourrait-on voir une lutte avec 6 voitures qui peuvent jouer la gagne sur certains Grands Prix. Ou voire sur tous les Grands Prix, mais bon, ne rêvons pas. Ben peut-être, hein, peut-être, je pose la question, ça aussi une question, enfin, une sorte d'espoir, parce que ce serait vraiment top de voir ça, de voir 6 pilotes, 6 très bons pilotes, quand ils sont à leur très bon niveau, 6 très bons pilotes qui luttent pour la gagne, c'est très positif pour la F1, ça renforce le côté compétitif. Évidemment, pour Mercedes, c'est moins top. Et oui, c'est juste ça, c'est juste pour eux que c'est moins top, hein. Eux, ils veulent pas ça, hein, mais bon. Personnellement, moi, je suis pour voir du beau pilotage. Et dans ces 3 écuries, il y a 6 pilotes qui, quand ils sont à 100%, sont excellents et font partie de la crème de la crème de ce qu'on peut voir. Quand ils sont à leur meilleur niveau, alors je parle Rosberg, Hamilton, évidemment, Raikkonen, Vettel, évidemment. Enfin, Raikkonen, c'était moins évident ces deux dernières années, mais là, cette saison, c'est vrai qu'il hausse son niveau. Ricciardo, évidemment, sauf quand il se montre frustré. Et Verstappen, c'est plus aléatoire pour l'instant. Il lui faut de la régularité pour vraiment qu'on le considère dans le haut du panier. Il est très irrégulier depuis le début de sa carrière, Donc, à voir sur les prochains Grands Prix, justement. C'est ce qui doit améliorer, je pense, dans son pilotage, dans sa manière d'aborder les courses, c'est sa régularité. Donc, attendons de voir, tout simplement. Attendons de voir. Quand c'est pour tirer vers le haut le sport, moi je suis pour qu'il y ait plus de voitures qui luttent pour la gagne. Après, ça ajoute du suspense en plus. Ça ajoute du suspense, du spectacle. Donc c'est tout du tout bon pour les spectateurs, du tout bon pour les pilotes également, qui aiment bien lutter, surtout pour les autres pilotes que les Mercedes. Donc voilà, moi je suis vraiment pour ça. Après, il faut faire attention. Il faut pas oublier que les Mercedes, pour l'instant, ils ont toujours une longueur d'avance. Il n'y a aucune écurie qui leur a démontré qu'ils pouvaient être plus fortes en rythme de course ou en qualif, hein, pour l'instant. Donc pour l'instant, Mercedes toujours en haut. Et ils ont une avance qu'ils comptent bien garder. Ils évoluent aussi. Ils font évoluer les choses au niveau du moteur, au niveau de l'unité de puissance, au niveau de l'aérodynamisme. Donc ils restent devant. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas critiquer la F1 si jamais Mercedes reste devant toute la saison et que finalement Red Bull et Ferrari luttent entre elles ou même pas, mais n'arrivent pas à revenir sur Mercedes. C'est comme ça, c'est la F1. La F1, c'est un domaine compétitif avec des marques, des constructeurs qui construisent elles-mêmes. Qui se construisent eux-mêmes leur monoplace. Donc forcément, il peut y avoir des disparités, ou parfois, certaines saisons, il peut y avoir plusieurs écuries qui luttent pour la gagne. C'est ça la F1, c'est la démesure, et on est là pour ça, on n'est pas là pour voir, on va dire, 22 voitures qui sont les mêmes. Ça n'aurait aucun intérêt. La F1, c'est la démesure, c'est la technologie, c'est l'innovation, c'est des écuries qui sont libres. Libre de constituer leur monoplace, de l'améliorer, etc. C'est pour ça qu'on a vu depuis 1950 tant d'évolutions dans la discipline. Et oui, c'est parce qu'il y a cette liberté, et voilà, et c'est beau de voir ça. Alors après, l'inconvénient, c'est que ça peut mener à des fois à une écurie qui connaît une hégémonie, voilà, mais bon, c'est comme ça, et il faut quand même savoir apprécier le sport comme ça. Sinon, je vous invite à regarder d'autres sports mécaniques différents. Mais voilà, il faut accepter la F1 comme elle est. Pour le dernier point qui concerne ce Grand Prix, je vais parler de Nico Hülkenberg. Ça n'a rien à voir avec la lutte qu'il y a eu devant, rien à voir avec un dépassement, mais c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a choqué également. C'est Nico Hülkenberg qui, lorsqu'il a abandonné, a pris lui-même l'extincteur des mains d'un commissaire de piste et a éteint le feu sur sa monoplace qui commençait à prendre assez fort, assez fortement. On ne devrait pas voir ça, on ne devrait vraiment pas voir ça. Nico Hülkenberg, il n'est pas commissaire de piste, donc il n'est pas censé être compétent pour faire ça. Et surtout, les commissaires de piste sont censés être les personnes compétentes pour régler tout souci autour d'une monoplace qui abandonne. Et une monoplace qui prend feu. Mais seulement, voilà, quand c'est pas la première fois qu'on voit ça, et ça, c'est ce que je veux souligner. On l'a vu également, on l'a vu précédemment, je crois, il y a un ou deux Grands Prix. L'année dernière également peut-être, mais en tout cas ça fait plusieurs fois qu'on le voit et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces commissaires de piste, à mon avis, ne sont pas complètement formés à 100% sur ces F1 complexes de l'ère hybride, depuis l'ère hybride. Ils ne savent pas, ou bien concernant les F1 tout court, mais bon, a priori les commissaires de piste sont des commissaires expérimentés. Ils ne prennent pas des nouveaux tous les ans, hein, je pense pas. Il doit y en avoir un peu, mais pas tous les ans. Donc voilà, et ça, ils faisaient vraiment peine à voir. Hein. D'ailleurs, ces commissaires de piste, ils étaient vraiment perdus. Ils attendaient quoi? Que la Force India prenne totalement feu pour savoir où activer l'extincteur? C'est quand même fou. Hein. Et Hülkenberg, voilà, il a pris les choses en main. Pourquoi? C'est très mature de sa part. Parce que, d'une part, il sait ce que ça représente. Une pièce en plus de casser sur la monoplace ou d'endommager, ça représente plus de travail à l'usine pour se procurer les pièces, pour refaire le montage de la monoplace également, faire les différents examens de sécurité et de performance. Ça demande du temps, des moyens mis en œuvre, de l'argent évidemment, et Force India, c'est pas une écurie très fortunée, donc forcément, il faut pas faire n'importe quoi et prendre soin des pièces qu'il y a sur la monoplace. Donc Hülkenberg a très bien fait de faire ça. Sa monoplace prenait vraiment littéralement feu, hein, voilà. J'espère ne plus voir ça parce que c'est assez grave quand même, hein, de voir des commissaires de piste qui ne savent pas éteindre un feu sur une F1, un Grand Prix de F1. On est censé être quand même sur le sommet du sport auto, donc les commissaires de piste doivent être alignés là-dessus, tout simplement. Donc voilà, petit message à passer à l'avenir. Et j'espère que le travail sera fait pour ne plus voir ce genre de choses. Parce que déjà, ça peut être dangereux. Et ensuite, eh ben, les écuries font un peu la gueule quand ils voient les commissaires de piste faire un peu n'importe quoi. Voilà, c'était tout pour ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, on se donne rendez-vous au prochain, je ne sais pas quand, mais il faudra parler justement de cet échange entre Verstappen et Kvyat. Maintenant, on a un peu plus d'éléments, évidemment. Mais il y a d'autres choses à, il y a des choses à dire, ça n'enlève pas ce que j'en pense, hein. Pour moi, c'est très critiquable encore, même si les faits leur redonnent raison, les faits sportifs en tout cas, sur le plan purement sportif, ça leur donne raison pour l'instant. Comme je l'ai dit, attendons de voir si Verstappen se montre régulier ou pas. Mais voilà, il faut vraiment en parler. Donc j'en parlerai certainement lors du prochain podcast, hein. Je vais vraiment, vraiment essayer avant le Grand Prix de Monaco de faire ça. Je vous remercie encore et puis à la prochaine et d'ici le prochain podcast, vivons notre passion, à bientôt!